Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa Dalloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz, avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute.
Raconte-moi un arrêt, une émission de Tania Rachaud, produite par Amicus Radio.
Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Déjà le dernier épisode de cette série de 5 décisions prises par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de protection LGBTI. J'ai eu envie de mettre ce coup de projecteur parce que ce sont des décisions qui rassurent quant à l'état du droit et l'état de droit, notamment concernant la protection des droits fondamentaux de toutes et de tous, à une époque où ces droits sont malheureusement souvent remis en cause. On finit donc cette série avec une affaire française qui date un peu, mais qui a mis une décennie avant de trouver sa pleine application. L'histoire démarre même en 2009, quand Geoffrey Léger se présente à l'établissement français du sang à Metz, établissement qui refuse sa proposition de donner du sang parce qu'il a eu par le passé une relation avec un homme. Pour en discuter, j'ai le grand plaisir de recevoir Maître Caroline Mécari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris depuis 35 ans. Vous avez également été conseillère municipale à Paris, chevalière de l'Ordre national du mérite et autrice de nombreux ouvrages. On peut citer par exemple donc PMA et GPA, un ouvrage fait pour mieux comprendre ces questions, publié en 2019, mais vous m'avez indiqué qu'une nouvelle édition arrive en 2026.
Exactement.
Vous avez aussi plaidé pour de nombreuses causes, notamment la question de l'adoption pour les personnes de la communauté LGBTI, par exemple dans le cadre de l'affaire EB contre France de 2008 devant la Cour européenne des droits de l'homme. Peut-être donc l'objet d'un prochain épisode, mais aujourd'hui c'est l'affaire Léger qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 avril 2015, une affaire C-528-13 qui va nous retenir. Geoffrey Léger ne se laisse pas impressionner par le refus du médecin de l'établissement français du sang et l'interdiction d'ailleurs générale qui datait de 1983, et il va porter, avec votre aide, maître, cette affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg. L'argument présenté, c'est l'incompatibilité de l'arrêté ministériel qui fixe les critères de sélection des donneurs de sang avec une série de dispositions, alors la Convention européenne des droits de l'homme est mentionnée, mais surtout deux annexes de la directive 2004-33. C'est une directive qui concerne certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins et qui indique justement dans les annexes les informations qui sont nécessaires pour les donneurs. À la lecture des annexes, on remarque que rien n'est dit vraiment explicitement sur la question des relations d'un homme avec un autre homme. Il est indiqué, par exemple, qu'un entretien individuel doit permettre de déterminer les facteurs utiles pour éventuellement exclure des personnes du don du sang. Dans la seconde annexe mentionnée, ce sont cette fois les critères d'exclusion permanente pour les candidats à des dons qui sont détaillés, avec une ligne d'ailleurs sur le comportement sexuel qui pourrait exposé au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang, mais à nouveau sans viser expressément les relations entre hommes. Et donc c'est ce débat qui va déclencher par la suite le renvoi préjudiciel du tribunal administratif vers la Cour de justice de l'Union européenne pour s'interroger en fait sur la dimension de cette exclusion du don du sang. Le juge se demande si la circonstance pour un homme d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme constitue en soi un comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang, et donc surtout justifiant cette exclusion permanente. Avant de se pencher sur la réponse de la Cour, est-ce que vous pouvez nous raconter, Maître Mécari, comment finalement ça s'est passé au niveau du tribunal administratif au tout début de cette affaire, le tribunal qui avait été saisi en 2009, et aussi comment s'est décidé peut-être ce renvoi préjudiciel?
Alors, vous avez fait un bon rappel de la situation sur le plan juridique. Il faut savoir que initialement, c'est Geoffroy Léger qui a saisi tout seul le tribunal administratif et qui ensuite est venu me chercher pour que je puisse compléter son argument argumentaire. Et au fond, la question qui se posait au tribunal, qui s'est posée devant le tribunal administratif, c'était de savoir si l'arrêté du 12 janvier 2009, qui donc exclut de manière permanente et définitive les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, remplissait les conditions des critères fixés par la circulaire de 2004 permettant éventuellement de limiter le don du sang à certaines catégories avec comme critère essentiel pour la directive la question du comportement sexuel. Et donc, dans la directive, il n'y a pas de définition ou de détermination générale. Il appartient à chacun des États membres de l'Union européenne de définir, en fait, ces critères. Et ce qu'a ajouté l'arrêté du 12 janvier 2009, contesté donc de façon, par une voie d'exception d'illégalité, par la remise en cause de la décision qui avait été opposée à Geoffroy Léger le 29 avril 2009, puisque c'est le 29 avril 2009 que l'établissement français du sang lui a dit non, on ne pourra pas prendre votre sang parce que vous êtes un homme et que vous avez eu des relations avec d'autres hommes et que l'arrêté du 12 janvier 2009 exclut de manière permanente les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est cette décision qui a été contestée devant le tribunal administratif. Et donc, pour le tribunal administratif, en fait, il y avait... La question qui se posait était la suivante. Est-ce qu'on accepte l'essentialisation? C'est-à-dire, est-ce qu'une relation homosexuelle en soi est un comportement à risque? C'est vraiment ça. Ou, et c'était notre position, est-ce que cela dépend des circonstances de la relation ou des relations qui, elles, vont éventuellement définir s'il existe un risque ou non. Et donc, c'est par rapport aux actes. Donc, d'un côté, on a une position essentialiste de l'administration française dans l'arrêté du 12 janvier 2009 qui ne fait pas de distinguo. Bref, qui que vous soyez, homme, ayant des relations homosexuelles avec un homme, peu importe si ces relations ont eu lieu il y a un an, il y a deux ans, vous êtes exclu. Donc, c'est vraiment une essentialisation que nous contestions versus le comportement, et nous disions, oui, nous comprenons que l'administration puisse limiter le don du sang dans certaines circonstances en raison du comportement éventuel de la personne. Tout comme d'ailleurs étaient exclus les dons du sang des personnes hétérosexuelles si elles avaient eu des relations sexuelles à risque et cela pendant un certain délai. Donc en fait, face à cette situation, le tribunal administratif il s'est dit, la question elle est quand même compliquée, donc qu'est-ce que je fais? Je vais demander un avis à la Cour de justice de l'Union européenne, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a renvoyé pour avis à la Cour de justice de l'Union européenne.
Oui, question vraiment compliquée. D'ailleurs, probablement, le tribunal administratif a dû avoir, enfin, les juges administratifs ont dû avoir des discussions dessus, puisqu'ils sont saisis en 2009 et la décision de sursoir à statuer est rendue en 2013. Donc il y a un certain nombre d'années. Alors évidemment, probablement aussi un tribunal engorgé, mais tout de même, les juges de première instance qui saisissent la Cour de justice de l'Union européenne, ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent.
Non, c'est pas le plus fréquent, c'est très très clair.
Donc il a dû avoir des débats assez intenses qu'on peut projeter. Et la Cour de justice de l'Union européenne, donc après avoir été saisie en 2013, va rendre sa décision en 2015. Le débat devant la Cour de justice va porter alors sur des questions de discrimination, mais on voit qu'il y a notamment pas mal de questions autour des connaissances scientifiques qui sont portées, qui pourraient permettre de déterminer s'il y a un risque de transmission de maladies infectieuses sans avoir à passer par cette exclusion définitive. Et effectivement, vous l'avez dit, la Cour va rappeler d'abord que chaque État a une marge d'appréciation pour déterminer les catégories de personnes qui peuvent être frappées d'une exclusion permanente. Mais c'est là où c'est toujours intéressant, c'est que c'est une marge d'appréciation sous le contrôle tout de même et le respect du droit de l'Union européenne. Et donc c'est là que la Cour de justice va investir ce contrôle vis-à-vis de la directive 2004/33, mais aussi des droits fondamentaux. Et du côté français, on voit que l'argument mis en avant, justement sur le terrain des connaissances scientifiques, c'est le fait que la France est le pays le plus touché par le VIH à ce moment-là, selon des études nationales et celles du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Nous, on est des juristes, donc c'est toujours un peu compliqué de se dire, On nous oppose des arguments scientifiques. Comment est-ce qu'on peut faire juridiquement, finalement? Est-ce que il y a des difficultés, alors de façon générale, mais aussi dans cette affaire particulièrement?
Alors, d'abord, ce qui est important de rappeler, je pense que c'est la Cour de justice a reconnu que l'arrêté du 12 janvier 2009 était susceptible de comporter à l'égard des homosexuels, des personnes homosexuelles, une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a rappelé que la limitation des droits, que dans le même temps, il existait la Charte des droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l'homme, et que donc, lorsque un État choisit de limiter les droits et les libertés qui sont prévus, que ce soit par la Convention européenne des droits de l'homme ou par la Charte des droits fondamentaux, il doit d'abord poursuivre un objectif d'intérêt général. Bon. Et on peut dire en l'occurrence que l'arrêté poursuivait bien cet objectif d'intérêt général, c'est-à-dire d'assurer un haut niveau de protection de la santé publique et de la santé d'autrui. Mais c'est là où c'est important. Si un État choisit de limiter les droits et libertés qui sont garantis par les différents textes, conventions européennes et charte des droits fondamentaux, cette atteinte aux droits et libertés, elle doit choisir la voie des mesures les moins contraignantes.
La proportionnalité.
En l'espèce, une espèce de proportionnalité. Et si d'un côté, l'État français pouvait arguer d'un fort taux de prévalence du VIH dans la communauté des personnes homosexuelles, en réalité, ce que nous avons avancé et ce que nous avons expliqué, et c'était parfaitement étayé par un certain nombre d'éléments objectifs, c'est qu'il existait la possibilité de contrôler la qualité du sang. D'abord parce que lorsque il y a des dons du sang qui sont effectués, il y a des contrôles de la qualité de ce sang, et sur la problématique de ce qu'on appelle la fenêtre silencieuse, c'est-à-dire une période durant laquelle dans le sang on peut ne pas voir la contamination, eh bien cette problématique de fenêtre silencieuse pouvait être palliée simplement en acceptant que le sang puisse être gardé pendant une période, je crois que c'était 42 jours ou 45 jours, sans contrôle, mais qu'ensuite le contrôle pouvait être fait et donc garantir la qualité du sang. Donc c'est une espèce de la mise en quarantaine du sang permettait de régler cette difficulté. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'époque, il y avait un député qui était Olivier Véran et qui préconisait, à l'époque, en 2013, il avait rendu un rapport sur cette question. Il préconisait, en fait, de choisir la voie la moins contraignante, c'est-à-dire de permettre un contrôle après l'écoulement de ce délai. Voilà. Et donc, je crois que c'est ce que la Cour de justice de l'Union européenne a entendu, parce que l'idée qu'il puisse y avoir une interdiction générale et permanente fondée, en fait, de facto, sur l'orientation sexuelle, évidemment, c'est problématique, surtout s'il existe d'autres manières de faire. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire nous donnera raison.
Exactement. On le sait, en matière de droits fondamentaux, une interdiction absolue, c'est rarement une bonne idée et ça passe rarement le cap du contrôle de proportionnalité.
Et j'ajoute, pardon, excusez-moi, j'ajoute parce que j'ai l'esprit d'escalier, que la directive attachait beaucoup d'importance, notamment aux questionnaires qui étaient posés aux personnes qui souhaitant donner leur sang, et qu'au travers d'un questionnaire affiné, il était parfaitement possible de faire le choix, mais in concreto, pas d'une manière générale, de oui, vous pouvez donner votre sang, non, vous ne pouvez pas donner votre sang, au regard notamment de la date des dernières relations sexuelles, plus de 4 mois, plus de 6 mois, plus d'un an, etc.
Oui, c'est la solution de la Cour de justice qui va dire finalement, qui va donner toute une grille d'analyse au juge national, hein, puisqu'on est dans le cadre d'un renvoi préjudiciel. Donc ça implique que la Cour de justice ne tranche pas de façon nette, puisque ça n'est pas son rôle et ça n'est pas son affaire, mais qu'elle donne des clés de compréhension au juge. Et donc elle va dire au juge, après toutes ces questions autour de l'application de la charte, eh bien de faire une série de vérifications, comme vous venez de l'expliquer. Est-ce que l'entretien individuel et le questionnaire sont suffisamment adaptés ? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'interroger l'existence de rapports protégés ou de relations stables pour éviter donc cette exclusion permanente ? Et donc, c'est aussi une application intéressante de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui, évidemment, en l'occurrence, est applicable conformément à l'article 51, puisqu'il s'agissait d'une directive, donc d'une mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Et ici, c'est l'article 52 de la charte qui va servir pour faire l'application de l'article sur la non-discrimination. C'est-à-dire que la non-discrimination est reconnue assez rapidement sur le fondement de l'article 21. Et ensuite, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a un article, l'article 52, qui s'applique à tous les autres et qui donc donne la grille d'analyse pour savoir si l'entrave aux droits fondamentaux telle qu'elle est reconnue peut être éventuellement justifiée.
Oui, et puis par ailleurs, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme avec l'article 14 qui interdit toutes les discriminations, combiné avec l'article 8 qui garantit le droit à la vie privée et familiale de chaque membre de l'Union, enfin de chaque membre du Conseil de l'Europe. C'est plus large que l'Union européenne, mais en tout cas c'est ça. Et c'est ce sont deux articles qui sont tout à fait effectifs dans le droit interne.
Mais c'est vrai que moi j'aime bien explorer ces décisions de la Cour de justice parce que je me dis que le juge naturel de ces débats ce serait la Cour européenne des droits de l'homme et que la Cour de justice de l'Union européenne est peut-être un peu moins attendue, mais que la reconnaissance de la valeur contraignante de la charte lui a permis de finalement agrandir son champ d'application ou ses appréciations beaucoup plus. Et dans cette exploration de l'article 52, c'est assez intéressant puisque alors, l'article 52 de la charte, contrairement à la Convention européenne des droits de l'homme, démarre par l'interrogation de savoir est-ce que la limitation respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause. Pour moi, ça reste quelque chose d'assez intriguant, l'idée de respecter le contenu essentiel de la non-discrimination. Mais ce que nous dit ici la Cour de justice, c'est que le contenu essentiel est respecté car il s'agit d'un cas de figure limité pour protéger la santé des receveurs du don. Et donc, par la suite, c'est aussi, deuxième étape, l'objectif qui est retenu pour la France, c'est la protection de la santé humaine. Donc on passe ces étapes et on arrive, comme vous l'avez dit, à la proportionnalité.
Oui, il faut préciser quand même qu'en France, on a une, entre guillemets, une sensibilité particulière, puisqu'on a eu le scandale du don du sang dans les années 80, qui a véritablement été traumatisant, en fait. Hein, vraiment traumatisant pour, d'abord pour les personnes qui en ont été victimes, pour la classe politique, mais et donc on a aussi ce contexte un peu particulier sans doute qui a conduit à des réticences quant à l'application, enfin quant aux effets, à la continuité de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne d'avril 2015.
Qui a été ensuite reçu par le tribunal administratif dans une décision de 2016.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que la Cour de justice de l'Union européenne rend un avis, la décision, donc cet avis est transmis à la juridiction qui l'a sollicité. Et donc, à nouveau, nous nous sommes présentés d'abord au travers d'un mémoire écrit, documenté, pour demander au tribunal administratif de tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en excipant de ce qu'on appelle l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2009. Pourquoi on appelle ça l'exception d'illégalité ? C'est parce que nous n'avions pas pu contester dans le délai de 2 mois de sa publication cet arrêté du 12 janvier 2009. Hein, je crois même que peut-être le client ne savait même pas qu'il existait, moi non plus d'ailleurs, hein, mais qu'il existe une voie, une technique procédurale qui permet d'exciper de l'illégalité d'un texte à un cas particulier, c'est exactement ce que nous avons fait. Et donc, dans le cadre du mémoire que j'avais déposé, nous avons développé toute une série d'arguments qui ont conduit le tribunal administratif, le 8 mars 2016, à annuler la décision du 29 avril 2009, fondée sur l'arrêté du 12 janvier 2009.
Et il y a 2 points qui apparaissent dans cette décision du tribunal de 2016 qui ne sont pas dans la décision de la Cour de justice. Alors effectivement, il va suivre la Cour de justice quand même très largement. Et c'est intéressant parce que le tribunal dit qu'il n'est pas établi que les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes cacherait cette réalité lors des entretiens. Et le tribunal ajoute, et quand bien même il cacherait cette réalité, l'interdiction générale et permanente ne permet pas de lutter contre d'éventuels mensonges de toute façon. Donc peut-être c'était un argument supplémentaire du gouvernement à ce moment-là.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait le gouvernement soutenait que le mensonge allait être... allait être utilisé en long, en large et en travers. Et quoi qu'il en soit, à supposer que cela puisse être vrai, encore qu'on ne voit pas très bien pourquoi, mais à supposer que ça puisse être vrai, le tribunal a bien fait de souligner que, quelle que soit la réglementation, ça n'empêcherait pas d'éventuelles contre-vérités assénées lorsqu'on remplit le questionnaire avec le médecin à l'établissement français du sang.
Exactement. Et le deuxième point devant le tribunal, c'est le débat autour des conséquences de l'annulation. Il maintient l'annulation et le plein effet, mais j'imagine également que le gouvernement français a tenté de reculer l'effet de l'annulation, d'aménager ses effets dans le temps.
Oui, c'est-à-dire que le gouvernement souhaitait que cette annulation ne prenne effet que plus tard, en réalité, alors qu'il n'y avait pas de raison objective pour qu'on puisse accorder un délai à l'administration, dans la mesure où on est en 2016, que les études sur lesquelles le gouvernement français se fondait remontaient à 2008-2009, et que pour partie, on pourrait dire que pour certaines d'entre elles étaient biaisées, puisqu'il s'était agi d'aller interroger des hommes sortant d'un certain nombre d'établissements de nuit. Donc c'est une population particulière qui sort et qui ne représente pas la totalité des hommes gays en France. Donc il y avait toute une série d'éléments qui ont conduit le tribunal à ne pas accepter la demande du gouvernement français de fixer l'annulation à une date ultérieure à la date à laquelle le jugement a été rendu.
Exactement. Et donc, comme je disais au début de l'épisode, c'est une saga qui a duré très longtemps, puisque malgré ce retour positif du tribunal en 2016, donc c'est compliqué pour Geoffrey Léger et d'autres de donner leur sang immédiatement, puisque jusqu'à cet été, l'été 2025, en fait, il y a eu une gradation des mesures sur ces questions. Alors, tout de suite après la décision, quand même, il y a la levée de l'interdiction absolue, mais la mise en place d'une période d'abstinence d'une année avant tout don du sang. Période d'abstinence d'une année qui a duré jusqu'en 2020, où celle-ci a été abaissée à 4 mois. Mais bon, on imagine bien que c'est compliqué de s'engager à être abstinent pendant toute une année, donc ça a probablement limité les dons du sang à cette époque.
Oui, un peu ironiquement, je disais que finalement, seuls les prêtres pouvaient respecter cette obligation. Quoi qu'il en soit, ça témoignait vraiment de la très grande frilosité du ministère de la Santé, qui s'explique sans doute par les éléments historiques que j'évoquais tout à l'heure sur le scandale du don du sang, en fait, des années 80.
Oui, et donc 16 mars 2022, la décision est prise, enfin, de mettre fin à la période d'abstinence. Et donc, depuis 2022, en théorie, les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes peuvent donner leur sang dans les mêmes conditions
que les hétérosexuels. Oui, absolument.
Mais pourquoi août 2025? Eh bien, parce qu'il y avait aussi le problème du fichier contenant les informations des donneurs. Et donc, dans ce fichier, il y avait la mention de l'homosexualité des donneurs, mention qui a été définitivement supprimée en août 2025 seulement, donc encore 3 ans après la fin du délai d'abstinence. Et en plus, cette mention avait fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme en 2022, une décision Drelon contre France, notamment sur la question de la conservation des données qui existaient dans ce fichier.
Ça montre la résistance des États. En l'occurrence, ça montre la résistance de la France à accepter des décisions qui sont rendues par des juridictions comme la Cour de justice de l'Union européenne, qui normalement s'imposent à toutes les administrations françaises. Et je trouve que c'est toujours inquiétant parce que implicitement, c'est aussi une remise en cause de l'État de droit. C'est ça. Enfin, au final, ça a été supprimé, mais quand on parle de l'histoire de Geoffroy Léger et quand je pense à lui, c'est vraiment un combat qui a été de longue haleine. Quand vous pensez qu'il a voulu donner son sang en avril 2009, qu'il a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif en mars 2016, c'est-à-dire 7 ans plus tard, qu'ensuite Il a fallu une modification de l'arrêté pour qu'il puisse rentrer dans les critères posés par l'administration. Ce sont vraiment des combats de longue haleine pour les personnes et c'est vraiment difficile. Et en même temps, quand on les gagne, ce qui est intéressant et ce qui est beau, c'est qu'en fait, ça profite à la totalité de la population ou à tous les citoyens.
Exactement. Heureusement qu'il y a des Geoffrey Léger. J'imagine qu'il a été aussi très heureux de recevoir la décision, oui. Même si ça n'était pas définitif. Et aussi des avocates comme vous qui êtes engagées sur toutes ces questions. Merci beaucoup de nous avoir permis d'échanger là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, c'est moi qui vous remercie. Je trouve que c'est passionnant et je trouve que c'est extrêmement intéressant et important en fait, d'expliciter comment la justice s'est rendue et comment ça part, non pas de gens qui sont militants, parce qu'en France, on n'a pas cette pratique qu'on peut trouver dans les pays anglo-saxons de faire des procès symboliques, mais vraiment de difficultés auxquelles sont confrontés tel ou tel justiciable et que grâce à la détermination de ces justiciables, grâce à des bons argumentaires de droit, ce qui est aussi important, accompagnés par des avocats compétents évidemment et qui rencontrent des juges, un juge, le bon juge, c'est-à-dire celui qui est capable à la fois d'appréhender le texte mais aussi la dimension humaine, eh bien on peut obtenir des avancées qui bénéficient à tout le monde.
Donc la bonne décision de justice, c'est un ensemble de circonstances, d'arguments juridiques, mais aussi d'humanité.
Absolument.
D'humain derrière, et c'est un peu l'objet de notre podcast Raconte-moi un arrêt. Merci beaucoup, maître Caroline Mécari, d'avoir été présente et de nous avoir éclairé sur cette décision Geoffrey Léger. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous bien sûr pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode.